Les pieds sur terre. Sonia Kronlund.
Elle a la voix de Françoise Lebrun dans un film d'Eustache, une intonation un peu chantante, un tout petit chuintement, une façon d'être gaie, même quand elle est triste. Elle a un vocabulaire qui taquine les années 70, elle parle de ses potes, elle aime le pinard. Et avec elle, on se sent transporté loin dans un monde où on met de longues écharpes violettes avec des franges, peut-être du patchouli. Et on est libre, très libre, autonome, on vit à la campagne. Elle le dit d'ailleurs elle-même, je prolonge mon rêve de vieille hippie. Et en même temps, c'est une femme d'aujourd'hui qui réalise un rêve on ne peut plus contemporain, une utopie réaliste de notre époque. Car elle a trouvé une façon de répondre aux enjeux du 21e siècle qui en font une héroïne, une vedette, une de ces femmes courage que seule Leila Jitli s'est débusquée et personne ne sait comment. Elle s'appelle Elisabeth Faure, elle a entrepris de construire toute seule une maison en bois qui ressemble à un triangle, la fameuse maison en A. On l'écoute donc tout de suite au micro de Leila Jitli.
Alors, je te lis mon CV. Elisabeth avec un Z. Je suis architecte, une bâtisseuse qui aime le son de la bétonnière le soir au fond du bois, la calligraphie japonaise, le blues, Frank Zappa et le jardinage. Une vieille hippie de 75 ans, puisque j'ai 75 ans maintenant, bientôt 76, enthousiaste, qui se file des coups de pied au cul et enfile aux autres, une amoureuse de cette belle nature et du pinard, et qui, plus que tout, aime se fendre à la poire. Je vis dans la région du Ribéracois. C'est-à-dire que la plus grande ville du coin, ça s'appelle Ribérac, et moi je suis à Lusignac. C'est un petit coin de Dordogne, trop joli, c'est très vallonné, c'est absolument charmant. Il y a une lumière que j'adore, qui est un peu la lumière de Toscane. Et moi j'ai posé la maison sur un flanc de colline, qui remonte sur Lusignac. Alors c'est une maison en bois, en triangle, et que j'ai commencé à construire en 2013. Donc cette maison va ressembler à un grand Toblerone. Donc c'est une succession de triangles, tac 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 tac. Tous les mètres, tu as un triangle. Donc tu peux faire une maison de 20 mètres de long, etc. Et qui coûte pas très cher. Ton toit et c'est les murs aussi. Donc forcément, ça réduit le coût de moitié. Et j'ai tout fait pour que ça soit facile à construire. Si tu sais construire un triangle, tu sais construire ta baraque. En gros, c'est ça. Il faut une perceuse, un mètre, et puis être précis, et puis on y arrive. En un an et demi, avec 40 000 euros, la maison a été terminée. Moi, j'avais envie de faire cette maison pour les pauvres. Enfin, au départ, c'était une maison pour les SDF. Donc c'était une toute petite maison, c'était des triangles de 5 mètres d'intérieur, et c'était 25 mètres carrés pour 6 000 balles. Et mon idée, c'était de les inclure dans cette aventure, qu'ils la construisent eux-mêmes, peut-être même faire des ateliers, comme ça on construisait les triangles, après ils aidaient leurs copains à construire, faire des petits villages de SDF, et puis ça intéressait personne. Donc je me suis dit, bah écoute, tu vas la construire toi-même, cette baraque. Mais quand même, moi j'avais envie de faire une baraque pour les fauchés, pour leur montrer que c'était possible. À l'époque, j'avais 65 balais. Et donc, si une vieille de 65 balais peut se la construire, tout le monde peut la construire, tu vois. Moi, je suis partie de ce paradigme-là. Alors, la question était, est-ce que j'en construis une très grande ou est-ce que j'en construis une très petite? Parce qu'à la limite, moi, ce qui m'intéressait, c'est d'avoir une toute petite maison. Donc, et puis après, je me suis dit, mais si j'en fais une toute petite, ils n'auront aucune idée comment on peut être une grande. Alors que si j'en fais une grande, ils peuvent la réduire. Donc, j'ai décidé d'en faire une grande qui me va pour moi. Donc, toutes les pièces sont calculées pour le mètre carré dans lequel je me sens bien. Voilà. C'est comme ça que ça a commencé cette histoire. Quand j'ai fait archi, en fait, je voulais pas travailler pour les riches. J'ai eu quelques propositions de diamantaires d'Afrique du Sud, figure-toi. Et non, j'ai refusé, je voulais travailler pour les pauvres. Et les riches, ils ont pas besoin de moi, tu vois. Mais les pauvres, ils ont besoin de moi. Donc, en fait, quand je bosse, je fais tout avec le minimum de blé. Comment on peut faire le moins cher possible? J'ai toujours fait comme ça.
Ça vient d'où cette idée de vouloir travailler pour les pauvres?
À la base, mon père était toubib. Il faisait de la recherche médicale au Maroc, sur le paludis et le trachome. Et on était dans des endroits paumés, quoi, tu vois. Et donc peut-être que c'est ça. D'avoir vu mon père aider les gens, je me souviens de lui dans les dunes et des kilomètres de gens qui attendaient pour une petite goutte dans les yeux pour le trachome, par exemple, tu vois. Donc ma sœur est née à Midel, je suis née à Fès, on était à Taroudant, on était à Meknès, on était partout dans tout le Maroc pour suivre le travail de mon père. On ne voyait jamais nos parents, donc c'était les Fatma qui nous élevaient, qui nous protégeaient, qui nous apprenaient des choses et puis qui m'ont rendu libre en fait. C'est elles qui m'ont élevée. Et je me sens heureuse grâce à elles. En fait, elles m'ont donné cet amour inconditionnel que les parents ne peuvent pas donner. C'est terrible, ça. Hein. Elles étaient merveilleuses, toutes ces Fatma, toutes ces magnifiques femmes. Donc, en fait, moi, j'ai appris qu'on avait des parents quand on est rentré en France. Hein. Tout d'un coup, pof, ils étaient là tout le temps. Hein. Mais ils nous ont vite mis en pension, donc c'était cool. On ne les a pas vus longtemps. Ouais. Quand on est devenue adolescente avec ma sœur, hein, mes parents avaient divorcé, donc on vivait chez ma mère et en fait, on faisait ce qu'on voulait. Ma mère ne s'occupait pas tellement de nous, donc on n'avait rien à bouffer. En fait, je volais pour manger, pour faire manger ma sœur aussi. Et tous les étés, on partait toutes les deux en stop. Et on partait pendant 2 mois et demi, on revenait juste pour la rentrée des classes. Et donc, on a vécu des trucs de dingue, tu vois, on a dormi dans les fossés, on a, sans un rond, parce qu'on partait avec 150 balles à deux, pour 2 mois et demi. Et je pense que c'est ça, en fait, cette vie assez dure, qui m'a rapprochée de la précarité. Et je l'ai pas oublié. Et puis, après mon BEPC, j'ai décidé d'émigrer au Canada. Et je suis arrivée au Canada quand il y avait l'exposition universelle de 67. Et quand je suis arrivée, il y avait l'expo universelle. Je suis allée au pavillon américain. C'était le dôme de Buckminster Fuller. C'était absolument renversant, hallucinant. J'étais complètement submergée de toute cette beauté qu'on pouvait faire des choses si belles en archi. Voilà. En rentrant dans ce dôme, j'ai dit, c'est ça que je veux faire. Et donc, je suis rentrée en France et j'ai passé mon bac pour pouvoir faire architecte. Après, je suis partie en Angleterre faire mes études d'architecte. Et donc, quand j'ai dit à mon père que je voulais faire archi, il m'a dit « t'es trop con », donc il m'a pas payé mes études. Donc aussi, en Angleterre, j'ai vécu de sacrés moments. Quand t'as pas de rond, et t'as pas de fric et tout ça. Donc j'ai toujours fait avec ce que je pouvais. Et en général, j'avais pas grand-chose du tout. Mais à l'époque, quand on était étudiants, on squattait des maisons aussi. Hein. On était quand même des militants. Des maisons qui appartenaient à l'État. Ils avaient vidé toutes ces maisons pour faire passer un autoroute. Et puis en fait, l'autoroute, il passe jamais. 25 ans plus tard, l'autoroute, il est toujours là. Et les maisons ne sont toujours pas détruites. Et donc, on a pris ces maisons et on a mis des gens dedans. Et on s'est mis dedans nous-mêmes, d'ailleurs. Et donc, toute cette démarche de travail sur le logement pour les plus démunis ou pour les plus précaires, etc., etc., ça a toujours été dans ma tête. Et puis après, je sais plus ce qui s'était passé. Ah si, à l'époque, j'avais une cliente qui avait un petit peu de sous et qui s'était acheté une maison dans le Lot. Et de temps en temps, je venais dans le Lot suivre le chantier. Et en revenant du chantier, je suis passée par la Dordogne et j'ai dit, c'est là que je veux vivre. Donc en fait, je suis partie d'Angleterre. suis allée vivre chez un pote pendant un moment et puis j'ai cherché un terrain. Et puis j'ai trouvé, au bout de 6 mois, j'ai trouvé ce terrain qui n'était pas encore viabilisé. C'était juste un grand champ. Mais quand tu as un terrain comme ça, il faut une cabane de jardin pour pouvoir vivre dedans. Ça, c'est le premier truc, parce que tu vas recevoir plein de matériaux. Et les matériaux, on te les pique. Donc, il faut que tu sois le chien de garde de ton terrain et de ton chantier. Donc, il te faut une cabane pour pouvoir dormir, bouffer, être à l'abri. J'avais 2 chiens en plus, tu vois. Donc, il fallait que tout le monde soit heureux. Et bien sûr, il n'y a pas d'électricité. Donc, j'ai pas de perceuse. J'avais une perceuse filaire à l'époque. Donc, je commence à construire ma cabane. Et une fois que tu as ta cabane, tu as mis la table, les chaises dehors, tu t'assois, tu te sers un petit coup de rouge, tu te fumes une clope et tu dis, ben voilà, la première étape est faite, on passe à la deuxième étape, les fondations. Donc les fondations, ça veut dire faire des trous. Au boulot, on creuse. Et là, surprise, c'était carrément des rochers énormes. Donc j'avais loué une pelleteuse. Et donc, elle grattait juste 40 cm. Et après, il fallait finir au marteau-piqueur, etc., bien sûr. Et donc, il a fallu creuser tous les trous pour les fondations et creuser la fosse septique. C'est beaucoup de jours à creuser, toute seule avec mes petits bras. Et il pleuvait. Il a plu de février à fin juin, non-stop. Ça a duré des mois, dans 30 cm de boue. Et après... J'avais fait installer l'électricité et en même temps la fosse septique était installée, j'avais foutu le chiotte dessus, on pouvait chier tranquille. Donc, c'est le plus important dans une maison. Si ton chiotte est mal placé, c'est une catastrophe. T'as un chiotte qui donne sur la cuisine, dans une maison, il faut vraiment réfléchir où on le met, tu vois. Donc moi c'est le chiotte en premier et puis après la maison découle. À la base, je ne devais pas le faire seule. À la base, il y avait quelqu'un qui devait m'aider. Et puis, qui m'a fait faux bond une semaine avant. Il me dit, non, moi, je pars en vacances avec mes potes. Donc, à la base, je ne voulais pas le faire toute seule. Non, bien sûr. Mais c'est pas cette prétention-là. Il se trouve que c'est comme ça que ça s'est passé. Je me suis dit, merde, comment je vais faire? Et puis, j'ai fait. Et puis les gens qui sont venus me voir, surtout les potes, au début, ils m'ont saoulé en fait. Ils me disaient, tu es complètement folle, complètement inconsciente, tu vas jamais y arriver, c'est ridicule. T'es... Nana, après l'âge que t'as, qu'est-ce que tu veux faire à 65 balais? Enfin, tu es complètement fou. Donc j'ai dû leur écrire un email à tout le monde en leur disant, si c'est pour me casser, si c'est pour me dire que j'y arriverai jamais, c'est même pas la peine de venir. Hein, tu vois. Par contre, si vous voulez revenir avec une petite boutanche ou un petit pique-nique à midi ou le soir, vous êtes les bienvenus. Ils m'ont tous lâché. Et c'est très bien. Parce que toute seule, tu fais à ton rythme, tout est fluide en fait. Tu vois. Comme une petite fourmi, il ne faut pas s'arrêter, il ne faut pas réfléchir, il faut y aller. C'est tout. Et puis je sentais que cette maison allait me plaire en fait. Je sentais que c'était parfait pour moi. Je ne sais pas, ça devenait presque une obsession. Quand j'ai envie de faire un truc, j'y vais. Je n'ai pas peur de l'échec. Donc j'y vais tout le temps. Je fonce. Toute ma vie, ça a été comme ça. Quand je suis partie faire mes études en Angleterre, je connaissais personne en Angleterre. Je parlais pas un mot d'anglais. Je suis partie avec, je sais pas, 200 balles. Le moment où tu commences vraiment à y croire, c'est quand les madriers sont sur les piliers. Et donc les madriers, ce sont les grosses poutres qu'on pose sur les piliers et qui vont recevoir les triangles. Alors là, tu te dis, c'est top, je pensais même pas arriver jusque-là. Donc les piliers sont faits et puis tout le bois arrive. Donc là, c'est un énorme semi-remorque qui arrive avec absolument tout le bois pour faire les triangles. Alors, c'est des triangles équilatéraux avec une traverse à 2,40 m. Et évidemment, à un certain moment, quand il est fait, on le lève. Et puis après, on en fait un autre, on le lève. Et donc, les trois premiers triangles sont ceux pour qui on a besoin de copains parce qu'on n'a pas de poulie. On n'a pas de crochet dans le ciel pour accrocher la poulie. Donc, pour le lever, le cantonnier du village, qui s'appelle Robert, qui est devenu un super pote, est venu avec un pote à lui, et à nous quatre, on a pu monter le premier triangle, et le deuxième, et le troisième, et une fois qu'il y a le troisième monté, on accroche la poulie sur le troisième, et après on peut monter tous les autres avec la poulie. Et il y en a 18. Et puis, 18 jours plus tard, et ben, toute la structure est faite. Et c'est formidable. En plus, c'est tellement beau, cette structure. C'est d'une beauté, mais faramineuse. Alors après, il faut la couvrir. Et j'ai pas pu la couvrir pendant 10 jours. J'étais là, assise sur ma chaise, devant ma cabane. Et je disais, non, pas aujourd'hui, je peux pas. Parce que c'est tellement beau. Ça te remplit l'âme. C'est juste grandiose. Mmh. C'est tout aligné. C'est un charme hallucinant. Ça fait 6 mètres au pignon, 7 mètres 68 sur les côtés. Enfin, c'est quand même assez haut. En plus, sur les pilotis, c'est encore plus haut. Et c'est un petit bijou. C'est que j'avais pas envie de recouvrir. Je me disais, ça y est, quand c'est recouvert, je pleure. Mmh. Et donc, le jour est arrivé où il fallait la couvrir avec de l'OSB. C'est plein de petits bouts de bois qui sont collés entre eux. Et quand tu cloues ces planches d'OSB sur les triangles, ça s'appelle le contreventement. Et c'est ça qui va tenir toute la structure. Et donc, fin août, c'était fini. L'idée de cette maison, c'était de montrer aux gens qu'on pouvait se faire une maison pour pas très cher et soi-même. Donc, Morgane Launay a fait un film qui est sorti en 2015 et elle a fait 2 ans de projection dans des festivals, dans des cinémas, enfin des choses comme ça. Pendant 2 ans, elle a fait une grande tournée. Et puis Castorama est venu faire une petite vidéo d'une minute 12, un truc comme ça, qui a fait un buzz absolument monstrueux. Et là, des milliers de gens sont venus pendant le Covid alors qu'ils devaient, ils n'avaient pas le droit de faire 10 kilomètres. Ils en faisaient 500 ou 800 pour venir de Strasbourg, Bayonne. Ils venaient de partout. C'était plein tout le temps, tout le temps. Ils avaient vu le film et ils arrivaient complètement. J'étais comme le Messie, c'était absolument incroyable. Les gens venaient visiter la maison pour ressentir cette maison, pour voir s'ils allaient s'y plaire. Et puis ça leur redonnait des idées. Jusqu'en décembre, j'ai dit à Morgane, moi je ne peux pas continuer comme ça, hein. C'est pas possible d'avoir des gens tout le temps. Donc on a décidé de faire que les samedis. Donc samedi c'était open house et les gens venaient de partout. Mais ils ne repartaient plus. Hein. Ils s'installaient là, petit café, des fois ils restaient, je leur faisais des pâtes. Je te jure, c'était vraiment incroyable, c'était la grande colo tous les samedis. Et les gens n'avaient pas envie de partir, oh qu'est-ce qu'on sent bien chez toi. Et j'avais 30, 50 personnes tous les samedis. Pendant 4 ans. J'ai arrêté que août dernier. Hein. Alors, on a décidé de faire des tutos parce que j'en avais marre de raconter toujours la même histoire. De leur raconter comment on construisait une baraque. Donc on a fait les tutos et maintenant, figure-toi qu'il y a un petit couple, il s'appelle Florian et Macha, ils sont dans l'Altaï en Russie. Il a construit sa maison en A avec mes tutos. Il y en a plein comme ça, partout dans le monde. J'avais des coups de fil d'Israël, de Nouvelle-Calédonie, de Martinique, de partout dans le monde. Il y a un site qui s'appelle La Maison A. Donc c'est le site de Morgane Launay, la réalisatrice du film. Et sur YouTube, le film est gratuit. Je crois qu'on en est presque à 900 000 vues là maintenant. Et sur le site, ben, il y a mes plans gratuits. Il y a tous les tutos pour faire une maison. Voilà. J'ai pas gagné d'argent, il n'y a pas de droit d'auteur. C'est une structure qui est construite depuis la nuit des temps. Donc elle appartient à tout le monde. Non, les plans sont gratuits sur le site de la maison A, mais après, ils se sont tous démerdés, en fait. Hein. Ils ont tous fait leur truc tout seuls. Hein. Ouais. Là, je crois qu'en France, il y en a 200 qui sont en train de se construire. Et il y en a plein qui sont déjà construites. J'ai aidé pas mal de monde ici qui sont autour de la Dordogne, parce que je ne peux pas aller non plus trop loin pour faire ça. Mais je les lance, en fait. Hein. Tu vois, je leur apprends à faire un triangle. Et puis, de temps en temps, ils sont tellement sympas que j'en fais 7 avec eux. Ou alors, je fais carrément la maison en entier avec des potes. Et je me suis fait plein de potes, en fait. Je prolonge mon rêve de vieille hippie. Parce que la maison en A, je me disais, les gens vont aller s'entraider les uns les autres. Et c'est ce qui se passe. Hein. Il y a beaucoup de gens qui vont aider à construire. Et donc, c'est un petit peu le prolongement du rêve de hippie. Je suis une rescapée. Et alors, ce qui se passe dans le Ribéracois, c'est que j'ai reçu des officiels ici dans ma maison, avec leurs petits sachets de chocolat pour les vieux, parce que je suis une vieille quand même. Et donc, ils m'ont appris qu'ils ne voulaient plus donner de permis de construire pour les maisons en A, parce que je dénature le paysage rural français. Et là, je suis sous le choc. Un truc de dingue. Et donc, ils ont arrêté de donner les permis de construire. C'est fini. Ce que j'aurais répondu, c'est « Et alors, les pavillons de merde qui poussent depuis les années 50, ça dénature pas les paysages ruraux français ?» Absolument scandaleux. Il y a un problème de logement hallucinant. Il y a des gens qui ont envie de construire leur maison. Je comprends pas. Je ne comprends pas. Alors, c'est que dans le Ribéracois pour commencer. Donc, il y a des gens qui peuvent encore construire des maisons en A dans d'autres régions. Mais je trouve ça lamentable, monstrueux, qu'on fasse ça, quoi. Donc, en cherchant toutes sortes de textes de loi, etc., etc., j'ai trouvé des solutions pour contourner toutes ces histoires-là. Cécile Duflo avait sorti une loi. Si on végétalise les toits, on ne peut pas nous empêcher de construire une maison. Parce que c'est une loi. Tout le monde peut construire sa maison. Il faut juste aimer apprendre et puis s'accrocher quand même. Parce que ça demande beaucoup de force physique, mais faut être malin. Quand on n'a pas la force, quand c'est trop lourd, et ben on fait autrement. Tu vois, si c'est trop gros, et ben faut rouler, il faut le faire glisser, il faut réfléchir. J'essayais toujours de trouver des astuces, non seulement pour contourner le fait que je sois peut-être moins costaud qu'un mec, mais de toute façon il y aurait le même problème avec certains matériaux, mais aussi parce que j'étais toute seule. Donc si tu t'imagines accrocher un énorme bastingue, et ben il faut penser à le faire autrement que puisque t'es toute seule. Donc j'accrochais des sandoves sur lesquels je mettais mon bastingue, de l'autre côté je pouvais travailler. Enfin, il faut trouver des astuces, faut être malin, c'est peut-être ça la pensée latérale, c'est trouver des trucs que personne d'autre aurait trouvé en fait. Et puis, je vis dedans. J'ai toujours vécu sur des chantiers, tu vois. C'est ma vie, en fait. Donc, pour moi, c'est simple. Voilà. C'est jamais un défi, c'est juste un boulot que je vais essayer de faire. Et puis, si ça marche pas, ça marche pas. Mais ça, c'est pas tellement grave d'abandonner si on n'y arrive pas. On a appris quelque chose. Pour moi, il n'y a pas d'échec, en fait. Il n'y a que des expériences. Et puis, quand tu construis ta maison, tu te construis toi-même. Tu apprends tes limites, tu dépasses. Enfin, c'est un truc magnifique à faire. Ouais. Moi, je suis enthousiaste par mon travail. Il ne me lassera jamais. J'apprends tout le temps et j'adore complètement être sur un chantier. Toutes les odeurs de chantier, les ambiances, les gens, il pleut, c'est un chantier où il pleut, il fait beau, c'est un autre chantier. En fait, c'est des ambiances tellement sympas et je suis heureuse que sur un chantier, en fait. Ah ouais. Moi, mon rêve, ce serait de mourir sur une plateforme en construisant un triangle. Ouais. People are strange. When you're a stranger,
faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down, when you're strange. Faces come out of the rain when you're strange.
C'était Elisabeth et la maison en A, un reportage de Leïla Djitli réalisé par Emmanuel Geoffroy. Merci bien sûr à Elisabeth Faure, à Morgane Launay, l'attachée de production des Pieds sur Terre, c'est Valentin Rémy. Et notre stagiaire, c'est Inès Bouffartigue, Sébastien.
When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down, when you're strange. Faces come out of the rain when you're strange. No one remembers your name when you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange, when you're strange.